Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. On s'ennuie. Oui, on s'ennuie seul face aux écrans qui ont envahi nos vies. Quand je veux partager un texte, des idées, un enthousiasme, une colère, j'allume mon ordi et j'écris sur mon blog, chroniquedunsiècle.com, mais aussi sur mon Facebook, Twitter et tout le reste. N'est-ce pas pathétique ? Je lance des mots sans avoir jamais de retour. Et s'il ne s'agissait que de moi ? Mais nous en sommes tous là. Les influenceuses et influenceurs sur YouTube me font de la peine. Ils se dandinent, s'évertuent à être naturels, partagent leurs achats subventionnés par des marques de la plus cheap à la plus chic, qu'ont-ils comme retour ? Des insultes ou des « Oh, c'est trop bien !» J'estime que c'est pauvre, très pauvre comme échange. Apparemment, tout le monde en souffre. Et pourtant, tout le monde l'accepte. Et ceux qui veulent recréer une ambiance conviviale autour des livres se cassent lamentablement la figure car peu de personnes se déplacent dans ces lieux, car on se déplace de moins en moins. Lorsque j'étais jeune, et j'en reviens toujours à cette époque révolue des années 60 jusqu'au milieu du règne de Mitterrand, à cette époque donc où les cafés étaient des lieux sympathiques et familiers. Je me souviens du Londres au coin de la rue du Faubourg Saint-Denis et de la rue de Paradis dans le 10e arrondissement de Paris. C'était une brasserie, mais aussi un tabac bien achalandé. C'était le rendez-vous de tous les commerçants, artisans, ouvriers, quidam du quartier. Le matin, au comptoir, c'était le petit noir accompagné du calva pour certains, de croissants pour d'autres. Le midi, c'était la brasserie grouillante, bruyante et suante, résonnant des vociférations du patron, des appels des clients, du zèle bruyant des garçons. Et le soir, voyait les habitués venir terminer leur journée par un petit remontant. Aujourd'hui, les bobos l'ont transformé en un café feutré, un tantinet élégant. Tout y est comme il faut et tout y est froid. Le comptoir, les tables, les chaises, les tabourets et les garçons. Fini le PMU, fini la gaudriole, fini le tintamarre des coups de bourre. Ils en ont fait un décor. Et maintenant, un petit hommage à la rue du Faubourg Saint-Denis avec Miss Tinguette. Je suis née dans le Faubourg Saint-Denis.
Quand je me promène maintenant partout, j'entends des boniments avec plus ou moins d'accent. Si l'anglais me dit « I love you », je réponds « Mon petit, vois-tu, chez nous, on dit « Je suis chippé pour vous ». À l'espagnol amoureux qui me dit « Yo t'aime et yo te veux », je réponds « T'as du retard mon vieux ». Et quand un allemand me dit « Och fräulein, wollen Sie », afin de couper court, je réplique à tous ces discours « Je suis née dans le Faubourg Saint-Denis et je suis restée une vraie gosse de Paris. Vos promesses et tous vos serments, je n'y crois pas car c'est du boniment. Mon air voyeur, mes yeux moqueurs de midinette sont pleins de bonheur et je garde mon cœur car je vous le répète. Je suis née dans le Faubourg Saint-Denis, faut pas me la faire, je suis une gosse de Paris. Un jour un riche brésilien me dit vraiment vous avez du chien et si vous le voulez bien, vous allez pendant un mois dans le grave zeppelin avec moi faire un voyage plein d'émoi. Parcourant le monde entier, partout je veux vous acheter tout ce que vous voudrez porter. Des robes de Santiago, des châles de Bilbao, mais sans lui laisser le temps, j'ai répondu tout simplement, je suis née dans le Faubourg Saint-Denis et je suis restée une vraie gosse de Paris. Les toilettes, pour moi voyez-vous, y a qu'à Paris qu'on en trouve à son goût. Un bout de satin mis dans les mains d'une parisienne, par un petit rien, bientôt devient le manteau d'une reine. Je suis née dans le Faubourg Saint-Denis, faut pas me la faire, je suis une gosse de Paris. pareil tous les jours quand les hommes me font des discours et viennent me parler d'amour. L'un me propose un château, un autre m'offre une hispano, celui-là c'est des joyaux. Je me pose cette question, si j'écoute leurs propositions, j'aurai déjà des millions. Mais pas un ne me dit, je serai votre mari. Aussi sans perte de temps, je leur réponds bien gentiment, je suis née dans le faubourg Saint-Denis et je suis restée une vraie gosse de Paris. Quand l'amour amène le désir, mon cœur se donne, mais c'est pour le plaisir. J'aime bien mieux un amoureux simple et honnête qui vient m'offrir pour me faire plaisir quelques violettes. Je suis née dans le faubourg Saint-Denis, ça ne se vend pas les petites gosses de Paris.
Lorsque je passe dans ma rue, je m'arrête prendre un thé dans cette brasserie devenue un café bobo tenu par un hipster. Plus de tabac, plus de brouhaha, plus de fumée, plus d'engueulade, plus rien. Tout est bien propre, aseptisé. Et le patron s'imagine vivre intensément lorsque 10 malheureux clients sont installés dans ce lieu immense, comme il est vide aujourd'hui le Londres. Les cafés étaient depuis le 18e siècle une institution incontournable de la vie sociale. En effet, si la taverne des siècles passés était synonyme de beuverie, le café, qui fleurissait en Angleterre depuis le milieu du XVIIe siècle, devint en 1686, à la création du Procope par Francesco Procapio dei Coltelli, un lieu de rencontre, d'échanges littéraires, philosophiques et révolutionnaires à partir de 1789. Au XIXe siècle, il fut un café littéraire réputé dans lequel se retrouvaient Musset, Sand, Roger de Beauvoir, Théophile Gautier. C'est en 1890, mais il redeviendra le Procope en 1957, seulement il ne sera plus un café, mais un restaurant. Le Procope ne fut pas le seul café au XVIIIe siècle. Louis-Sébastien Mercier, dans le tableau de Paris, en dénombrait à la fin du XVIIIe siècle plus de 600. Il n'en dit d'ailleurs pas trop de bien. Voici un extrait de son chapitre. « C'est le refuge ordinaire des oisifs et l'asile des indigents. Ils s'y chauffent l'hiver pour épargner le bois chez eux. Dans quelques-uns de ces cafés, on tient bureau académique. On y juge les auteurs, les pièces de théâtre. On y assigne leur rang et leur valeur. » Et les poètes qui vont débuter y font ordinairement plus de bruit, ainsi que ceux qui, chassés de la carrière par les sifflets, deviennent ordinairement satiriques. Les cabales pour ou contre les ouvrages s'y forment, et il y a des chefs de parti qui ne laissent pas que de se rendre redoutables, car ils vous déchirent un écrivain qu'ils n'aiment pas, du matin au soir. Souvent ils ne l'ont pas compris, mais ils déclament toujours, et il faut que la réputation littéraire essuie paisiblement toutes ces bourrasques. Dans le plus grand nombre des cafés, le bavardage est encore plus ennuyeux. Il roule incessamment sur la gazette. La crédulité parisienne n'a point de bornes en ce genre. Elle gobe tout ce qu'on lui présente et, mille fois abusée, elle retourne au pamphlet ministériel. Un quartier fut célèbre pour ses cafés. Ce fut le Palais Royal. C'est à partir de 1785 que l'arrière-petit-fils du régent Philippe d'Orléans eut l'idée de se renflouer en se lançant dans la spéculation immobilière. C'est ainsi que le jardin du palais devint une sorte de lotissement dont les rez-de-chaussée étaient tous loués à des commerçants. Ce lieu deviendra le grand centre d'attraction de Paris jusqu'en 1830, année du commencement de la grande mode des boulevards. Au centre de ce jardin sera construit un cirque en partie enterré afin de ne pas obstruer la vue. Et 40 boutiques seront, elles, entièrement souterraines. En quelque sorte, l'ancêtre du centre commercial. En 1810, le Mercure de France fit paraître un article sur le Palais Royal dont voici la teneur. Le jardin, les galeries, les cafés, les maisons de jeux que renferme l'enceinte de ce palais offrent pour chaque heure de la journée des tableaux dont la variété est le premier mérite. Vers 9h du matin, les politiques se rassemblent autour de la rotonde et s'instruisent, pour la modique rétribution d'un sou, des nouvelles qui feront l'objet de leur entretien pour le reste du jour. À 10h, le café de Chartres commence à se remplir d'employés qui viennent, en déjeunant à la fourchette, y attendre l'heure du bureau. De midi à 3h, c'est au café Lamblin que se réunissent ce qu'on appelle les habitués du palais royal pour se distribuer ensuite dans les différentes maisons d'affaires et de plaisirs dont ils se composent. À 4h, les allées du jardin suffisent à peine à la foule des commerçants, des agents de change, des courtiers qui, trop resserrés dans le passage Virginie, viennent plus librement y régler l'Amsterdam Banco, le taux des fonds publics et le prix des denrées coloniales. À 5h, les chaises de ces mêmes allées sont occupées en partie par de pauvres diables qui guettent au passage quelques amis ou quelques dupes sur la bourse desquels ils fondent l'espoir de leur dîner. À 7h, les joueurs heureux et les étrangers qui ont dîné chez Naudet ou aux frères provençaux viendront compléter le repas sous la rotonde du café du caveau avec des glaces, des liqueurs ou du punch à la romaine. La promenade du soir dans le jardin, s'il fait beau et sous les arcades en cas de pluie, est réservée aux oisifs malaisés qui ont couru vainement le matin pour se procurer gratis des billets de spectacle, aux jeunes provinciaux qui, surpris de l'impression subite qu'ils font sur les beautés qui peuplent ce séjour, aux habitants du Marais ou du Pays Latin qui viennent en partie de plaisir prendre des glaces au café de foie. Enfin, de minuit à 2h, le café lyonnais et celui de l'Empire sont le rendez-vous d'une foule de gens dont le plus grand nombre hésiterait à rendre compte de l'emploi qu'il a fait de sa journée. Le palais royal, avec ses boutiques, ses maisons de jeux, ses maisons closes, ses cafés, ses restaurants, attirait tous les publics. On y pouvait manger, boire à toute heure, faire des affaires sans tenir compte des horaires et trouver des prostituées à foison. En 1830, l'on disait que deux marchands qui se séparent dans le port de Canton se retrouvent au palais royal. L'on y trouvait des marchands et des restaurants à bon marché, mais aussi des joailliers prestigieux et des restaurants illustres comme le Véfour ou les Frères Provençaux. On y trouvait aussi des épiceries réputées. Mais le boulevard allait, dans les années 1830, avec le règne de Louis-Philippe, détrôner le palais royal. En effet, le roi ordonna la fermeture des maisons de jeu du palais royal, fit détruire les galeries de bois où se promenaient les prostituées à moitié nues et fit construire la galerie vitrée. Mais ces travaux annoncèrent la fin du palais royal et le commencement des beaux jours du boulevard. Tous les grands bijoutiers, restaurateurs et commerçants allèrent s'installer sur le boulevard de Gand, devenu très rapidement le boulevard des Italiens. Voici ce qu'Edmond Texier écrivait en 1852, c'est-à-dire sous le Second Empire, dans son tableau de Paris. Un arrêt exila, au nom de la morale publique, les vierges folles qui se glissaient le soir, resplendissantes de paillettes sous les sonores arcades. Un vote parlementaire ferma les temples du hasard d'où s'échappaient à chaque instant, aux appels de la rouge et de la noire, de métalliques tintements. Et à l'heure qu'il est, le palais royal lutte de monotonie avec la place du Marais et voit comme elle, unique délassement de ses loisirs, les enfants sauter à la corde ou poursuivre des parachutes. Les boulevards ont hérité de tant de splendeur et de gloire. Ils sont devenus à leur tour le rendez-vous de l'univers, le point de ralliement de tous les peuples, forum cosmopolite ouvert à toutes les langues, centre merveilleux où aboutissent les chemins des cinq parties du monde. Ah, le boulevard, lieu mythique où l'on croisait tout le Paris mondain et demi-mondain, journalistique, politique, artistique, ses commerces luxueux, la librairie nouvelle, ouverte jusqu'à 22h, dans laquelle on rencontrait les Goncourt, Murgère, Balzac, Barbey d'Aurevilly et tant d'autres. Les passages, nouveaux et nombreux, passages des panoramas, passages Vivienne, passages Jouffroy, et surtout les cafés. Les fameux cafés que Théodore de Banville, grand nostalgique du Paris détruit par Haussmann, du Paris disparu de sa jeunesse, critiquait dans l'âme de Paris. Le manque d'espace et le prix fabuleux des terrains sur les boulevards de Paris le rendent en effet hideux. Dans ces petites boîtes dont le loyer est celui d'un palais, il serait fou de chercher la place d'un vestiaire. Aussi, les murs sont-ils décorés par les chapeaux tuyaux de poêle et par les pardessus accrochés à des patères, effet abominable qu'on tâche de contrebalancer en prodiguant les panneaux blancs et les ignobles dorures imités par des procédés économiques. Quant au breuvage, laissez toute espérance, car le maître du café manque de place pour les préparer, et il paie un loyer trop énorme pour n'être pas forcé de se rattraper sur la qualité de ce qu'il vend. Mais n'y eut-il pas cette raison-là ? On boit là trop de choses pour qu'elles puissent être bonnes. Et par exemple, ce qu'on trouve le moins au café, c'est du café. Tel qu'il est, avec ses défauts et ses vices, et même un bon siècle après la célébrité de Procope, le café, qu'on ne peut supprimer de nos souvenirs, a été l'asile et le refuge de beaucoup de charmants esprits. Théodore de Banville, comme Balzac, aimait ce breuvage noir qui semblait donner de l'esprit. Voici le café, poème de Théodore de Banville, dit par Yvon Jean.
Le café, ce bon élixir, le café, met dans nos cœurs sa flamme noire. Crosse-lui, fier de sa victoire, l'esprit subtil a triomphé. Faux lignon que chante d'Urfée, tu ne nous en fais plus accroire. C'est bon élixir, le café, mais dans nos cœurs sa flamme noire. Ne faisons qu'un auto-da-fé des vieux mensonges de l'histoire, et mêlons, sans peur du grimoire, à notre vieux sang réchauffé, ce bon élixir, le café.
Alfred Delvaux, cet écrivain parisien amoureux de sa ville, a laissé l'histoire anecdotique des cafés et cabarets de Paris, ce que regrettait de Banville. Et dans son avant-propos, il écrit « Aussi, en écrivant une histoire des cabarets et des cafés parisiens, est-on exposé à écrire une histoire de toutes les classes de la société parisienne, depuis les plus élevées jusqu'aux plus basses, depuis les plus nobles jusqu'aux plus viles ? S'il y a le café Véron et le café d'Orsay, il y a la Californie et l'Assommoir. Je n'oublierai ni les premiers, ni les derniers. Il y a longtemps, mon ami, que les cafés et les cabarets sont les salons de la démocratie, c'est-à-dire de tout le monde. Tout ce que Paris renferme d'illustrations, grosses, moyennes et petites, mène la vie de café. Quant aux grands poètes, aux grands financiers, aux grands industriels, aux grandes drôlesses, aux grands cabotins, aux grands filous d'aujourd'hui, ils ont été, ils vont dans les cabarets dont j'ai essayé d'écrire l'histoire au courant de ma plume et de mes impressions personnelles. Cela laisse rêveur, car dans ces cafés l'on croisait Baudelaire, Courbet, Champfleury et tant d'autres, mais aussi des critiques d'art, des journalistes, des critiques littéraires, des musiciens. L'ambiance y était joyeuse et enfumée. On échangeait. Aujourd'hui, il n'est plus question de cette convivialité ni de cette chaleur humaine. Chacun dans son coin le regarde l'autre comme un ennemi possible. Que sont devenues les conversations de bistrot de mon enfance ? Un petit intermède avec le petit bistrot du Faubourg, chanté par Pierre Doriane.
De très bonne heure, sur leur vélo, allaient porteurs de journaux, suivis bientôt des métallos qui commandent un coup de Bordeaux. Tout le monde crie, tout le monde rit, c'est le réveil de Paris. Avant de partir comme au temps de moineaux, au boulot, c'est un petit bistrot du Faubourg, encadré de plus un doudounou, dont le patron c'est fatal, vient du fond du Cantal. Ça n'est pas bien sûr comme un balai, mais il y a du bon Beaujolais. Et l'on y revient toujours, dans le petit bistrot du Faubourg. Quand c'est dimanche, on ne va pas, comme tout le monde au cinéma. Mais non, on vient d'ici, faire entre amis, la pelote ou le zanzib. Et oui,
Paris soirée, la dactylo, ils vont boire un diabolo.
Il se prouve que l'existence à deux, c'est bien mieux. C'est un petit bistrot du Faubourg, encadré de plus un tout doux, dont le patron c'est fatal, vient du fond du Cantal. Ça n'est n'est pas bien sûr comme un palais, mais il y a du bon Beaujolais. Et l'on y revient toujours dans le petit bistrot du faubourg.
Et comme il faut un dénouement, ça finira au printemps. Par le mariage et les bouquets, par les discours, le banquet, amen. Et le patron, ce vieux rapia, vient que je choisis un nom verbiage. Aux invités offrira de bon cœur des liqueurs. C'est la petite bistrot du faubourg, encadré de putain d'oignons, dont le patron c'est Satan, vient du fond du campagne. Ça n'est pas bien sûr comme un palais, mais il y a du bon Beaujolais, et l'on y revient toujours.
Les cafés étaient la vie d'un quartier ou d'un village. On y laissait ses soucis, on refaisait le monde, on critiquait librement le gouvernement, on s'engueulait aussi dès qu'il s'agissait de politique, on y prenait son café crème du matin et son apéro du soir. Personne n'était pressé, on savait prendre son temps. C'est d'ailleurs une des choses qui me manque le plus, prendre son temps. Je vois courir les gens. Quelle tâche les attend donc pour se précipiter, se bousculer ainsi? Pendant ce temps, assise à une terrasse de café, je les regarde en prenant mon temps. Voici maintenant le bistrot de Georges Brassens.
Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent t'en rang comme des harengs, voir en face la belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse. Que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines, valasse. Si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palace, avec ses appâts du haut jusqu'en bas bien en place. Ces trésors exquis qui les embrassent, qui les enlacent, vraiment c'en est trop, tout ça pour ce gros dégueulasse. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on n'y fasse? L'amour se fait vieux, il a plus les yeux bien en face. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agacent. Sois poli mon gars, pas de gestes garas la casse, car sa main qui claque, punie d'un flic flac, les audaces. Certes, il n'est pas né qui mettra le nez dans sa tasse. Pas né le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace, qui fera dans le dos les cornes à ce gros dégueulasse. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace.
Les cafés qu'aimait Théodore de Banville sont ceux que l'on trouvait au quartier latin ou dans les rues de la rive droite à l'écart du boulevard, comme la Brasserie des Martyrs, dont le journaliste Firmin Maillard se souvient en 1874 dans Les Derniers Bohèmes. L'autre jour, furetant à travers de vieux papiers, je suis tombé sur un lambeau déchiré d'un numéro déjà ancien d'un journal littéraire. Il traitait plus spécialement d'une certaine brasserie située rue des Martyrs, près Notre-Dame de Lorette, et des hôtes étranges qui la fréquentaient alors. Leur père, des siècles passés, allait à la Croix de Lorraine, près de la Bastille, au Cormier Fleuri, près Saint-Eustache, au Grand Cornet ou à la Table de Roland, près du Châtelet, ou à la Petite Pucelle de la Place Dauphine, au pressoir de la rue Saint-Martin, aux trois entonnoirs du pont Saint-Michel et surtout à la Pomme de Pin, contre le pont Notre-Dame. Les fils, eux, allaient un peu partout aussi, si vous voulez, mais cependant plus particulièrement à la brasserie. La brasserie, comme on disait alors, la brasserie tout court. C'était ainsi, s'écriait Alphonse Duchesne, que les Romains appelaient la Rome des beaux jours, urps, c'est-à-dire la ville par excellence. Et Alfred Delvaux affirmait que si par un caprice quelconque de la Providence Paris venait à disparaître, et qu'il ne resta debout que la brasserie de la rue des Martyrs, cette grande hôtellerie de l'intelligence, il serait facile de refaire une cité nouvelle et intéressante où certainement ce serait l'esprit qui manquerait le moins. Je fermai les yeux et je revis tout à coup cette grande salle pleine de bruit et de lumière, au milieu de laquelle bourdonnent pêle-mêle des dévideurs de rimes, bardes attardés, poétereaux encore crottés du nid, des tribuns assis et rassis, des philosophes sans le sou et qui s'en moquent, ce qui est le vrai fond de leur philosophie, des chercheurs d'idées, des trouveurs de mots, des maîtres peintres et des peintres élèves de la nature, école de Bougival ou de Batignolles, coureurs d'images et ciseleurs de phrases, chevaliers errants de la plume et du pinceau, audacieux chercheurs d'infini, effrontés marchands de chimères, entrepreneurs de tours de Babel, croyants et enthousiastes, mais tous malades de la même maladie, de la maladie de Panurge, faute d'argent, mais tous aussi héros de combats obscurs et quotidiens contre les réalités de la vie pratique, qui venaient là chaque soir réchauffer leur enthousiasme et parler de l'œuvre qu'ils avaient rêvée et qu'ils ne devaient jamais faire. Les goûts, les aptitudes, les tendances s'y cherchent, s'y trouvent, s'y rapprochent et s'y groupent d'eux-mêmes. L'attraction y procède bien quelquefois par antithèse, mais ces contradictions apparentes et toutes de détails y constituent l'harmonie. Philibert Audebran, autre journaliste et chroniqueur, en 1905, à l'âge de 89 ans, se souvint lui aussi de cette brasserie dans « Dernier jour de la Bohème ». Toutefois, à la fin de la rue des Martyrs, en descendant, à droite, à 50 pas au plus de Notre-Dame de Lorette, la coutume était de faire halte pour prendre un rafraîchissement ou un cordial, comme on voudra. Le touriste pénétrait aussitôt dans une maison ni belle, ni laide, sans caractère, sans enseigne, mais qui passait pour servir la meilleure bière du monde connue. Eh bien celle-là. Une grande porte vitrée qui s'ouvre à deux battants. Entrée. Vous voilà sur le seuil d'un immense boyau, si long qu'il n'en finit plus. En réalité, c'est une salle de 200 mètres qui aurait bien quelque analogie avec ces prisons scolaires de nos lycées si elle était meublée de tables pour études au lieu de tables pour boire. Mais encore une fois, ce qui la différencie, c'est son étrange étendue. Par un bout, elle confine à la rue des Martyrs et par l'autre bout, elle touche à la rue Notre-Dame de Lorette. Hier, au moment de sa gloire, elle était le rendez-vous de joyeux viveurs. Il me semble bien qu'elle date de 1848, époque à laquelle, se donnant du champ, comme on dit, les masses populaires brusquement épancipées par le 24 février, ont commencé à prendre part à la vie commune. Ça aurait donc été d'abord un club où l'on buvait en pérorant, mais je n'oserais l'affirmer. En tout cas, pour Paris, pas encore germanisé, c'était une chose encore nouvelle que cette vaste enceinte, n'ayant pas l'aspect d'un café français. Au mur, on ne voyait ni fresques emblématiques, ni dorures, ni ornements d'aucun genre. Près du comptoir, où s'asseyaient deux dames d'Alsace, blondes et rieuses, l'œil s'arrêtait sur une naïve peinture représentant le roi Cambrinus soulevant un énorme verre, débordant de bière écumante qu'il se disposait à approcher de ses lèvres. C'était l'enseigne de l'établissement. À l'intérieur, sur deux rangs, dans toute la profondeur du hall, vous entendez bien depuis la rue des Martyrs jusqu'à la rue Notre-Dame de Lorette, des tables de chêne cirées en noir et du style allemand le plus pur. Aussitôt qu'arrivait le soir, la salle s'illuminait à giorno par une grande profusion de gaz. À dater de 8 heures, un épais nuage de fumée s'échappant de 150 pipes aurait pu faire accroire à un mythologue qu'il se trouvait à Lemnos dans l'atelier de Vulcain ou au bord de l'Etna. Eh bien non, il n'était que dans une tabagie d'artistes. Entendons-nous bien, ces joyeux garçons étaient en effet des artistes et de toutes les gammes. Pour le moment, ils étaient obscurs, très pauvres pour la plupart, mais se redressant dans une noble fierté comme le fait souvent la misère, ils s'entraidaient pour affronter le malheur du temps et les dépenses essentielles du petit ménage assuré. Ils économisaient 50 ou 60 centimes pour se retrouver le soir entre amis devant une chope ou une canette. Ainsi donc, ils étaient avant tout réunis par la joie de vivre, le front exempt de soucis et de peur, coiffé du chapeau pointu ou bossué qui rappelait l'air des clubs, emmanché de ses barbes de bouc, signe avant-coureur de la conquête républicaine. Ils buvaient, ils fumaient, ils jouaient aux dominos, aux cartes, aux jaquets, aux échecs. Quelques-uns dessinaient au crayon, d'autres lisaient aux oreilles complaisantes de la prose ou des vers, surtout des vers. Il y en avait quelques-uns pour critiquer la pièce en vogue ou pour analyser le roman du jour. Mais, sauf sur une table, celle des beaux esprits dont j'aurais à parler un peu longuement parce que c'était la plus importante, ils avaient décidé de faire taire les ressentissements en politique. « Nous n'avons qu'à prendre patience, disaient-ils. Le temps est pour nous. » Je pourrais continuer à lire des heures des témoignages d'hommes de lettres qui fréquentèrent ces lieux que nous aimerions nous aussi fréquenter s'il en existait encore. Dans les cafés du boulevard, l'ambiance était très différente, mais beaucoup plus attirante et sympathique que celle de nos grands cafés encore ouverts. Alfred Delvaux a aussi écrit sur le café riche dans son livre. Le café riche était l'un des grands cafés à la mode sous le Second Empire. Il était situé à l'angle du boulevard des Italiens et de la rue Lepelletier. Si vous passez par là, exactement au 16 du boulevard des Italiens, vous trouverez aujourd'hui une banque. Le café riche est bien nommé. Il me serait difficile de citer d'une manière exacte et pertinente les noms des habitués illustres ou inconnus de cette aristocratique buvette. Bourgeois et gens de lettres, banquiers et gandins, acteurs et artistes, tout le Paris qui sait vivre élégamment, confortablement, chèrement, a hanté, hante ou hantera le café riche. Cependant, comme on croirait cette monographie incomplète si elle s'arrêtait ici, sans révélation de nom, je vais donner des noms au hasard de mes souvenirs personnels et de ceux d'un aimable viveur habitué à ce café depuis sa fondation. Alexandre Dumas, Roger de Beauvoir, Alfred de Musset, Gérard de Nerval, Nadar, Nestor Roqueplan, Taxil Delor, Gavarni, Henri Murgère, Edmond et Jules de Goncourt, Aurélien Scholl, Michel Lévy Frère, Charles Moncelet, Gustave Claudin, Offenbach, Edmond Abou, etc., etc. Ce qu'il se consomme d'esprit et de paradoxe dans ce cabaret littéraire suffirait à faire la fortune d'un bon nombre de pauvres hommes de lettres, s'il y avait là autre chose que des gens à leur aise. J'ai connu la fin de ces grands cafés des boulevards. Il ne restait malheureusement que le décor. En revanche, sur la rive gauche, les cafés, forts de leur succès d'après-guerre, fiers des Sartre, Beauvoir, Vian, Gréco qui s'étaient assis à leur terrasse, continuaient à penser que rien n'était changé et ne comprenaient pas que le règne mitterrandien sonnait le glas des espaces et des lieux publics. C'est au milieu des années 1990 que les bistrots virent leur déclin, qu'ils disparurent les uns après les autres. Voici maintenant, en hommage à ce monde révolu, une chanson de Francis Blanche et Gérard Calvi au bar tabac du coin, interprétée par Zappy Max.
Mon beau-frère Pascal et moi-même, nous adorons la société. Hélas, le travail de la semaine ne nous laisse pas beaucoup de liberté. Dans notre petite automobile, nous transportons tout ce que l'on veut. Le matin, livraison en ville, et l'après-midi, en banlieue. Mais chaque soir, on va retrouver les copains au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On oublie les tracas, le boulot du lendemain. Au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. Le billard électrique tourne et s'allume gaiement. On discute politique, on refait le gouvernement. On joue l'apéritif au 421, au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On est gai comme chez soi, c'est fou comme on sent bien, au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On a bien raison de dire quand même que le travail, c'est la liberté. Mon beau-frère Pascal et moi-même, on a vraiment été gâtés. Notre affaire a pris de l'importance. On vient d'acheter deux Cadillacs, mais c'est pas parce qu'on a de la chance qu'il faut jouer les snobs et les cracks. Alors chaque soir, on va retrouver les copains au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On oublie les tracas, le boulot du lendemain, au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. Nos amis sans fortune nous appellent monsieur. Nous, pas fiers pour deux thunes, on leur répond salut mon vieux. On joue l'apéritif au 421, au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On est comme chez soi, c'est fou comme on se sent bien, au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. Oui seulement voilà, notre affaire de transport et de livraison n'était pas très 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 régulière, et on s'est retrouvé en prison. Mon beau-frère Pascal et moi-même, bon, on n'est pas vraiment malheureux, d'autant plus qu'un gardien nous aime et qu'on peut sortir quand on veut. Alors chaque soir, on va retrouver les copains au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On oublie les tracas, le boulot du lendemain, au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On sable le champagne et vers 11h du soir, tout le monde nous raccompagne jusqu'à la grille du parloir. D'ailleurs, pour être en règle et n'avoir pas de pépins, au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. Quand on sort à présent, on emmène le gardien au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. Au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin.
Je me demande quelle place tient le café dans la vie de la jeunesse. Aussi ai-je demandé à une étudiante ce que représente ce lieu pour elle. Bonjour Anna, tu as 23 ans, tu es étudiante, tu fréquentes les cafés. Peux-tu me dire ce que c'est pour toi un café ?
C'est un lieu calme et apaisant où on peut partager un café avec un ami, discuter, prendre le temps. C'est aussi un endroit où on peut s'installer avec un livre pour lire ou bien son ordinateur pour travailler.
Est-ce pour vous aussi un lieu de convivialité, de joie, de bonne humeur, de rencontre ?
Pas particulièrement. Enfin, je pense que ça dépend du café et de l'ambiance, mais... c'est pas ça que je cherche dans un café, donc c'est pas dans ce genre de café que je vais aller.
Et pour toi, est-ce qu'il existe des cafés tels que l'on pouvait en voir au 19e siècle, c'est-à-dire des lieux où l'on rencontrait des écrivains, des poètes, des peintres, des sculpteurs ?
Non, je pense qu'il y a encore des événements qui se font... notamment même à Lille avec des personnes qui se réunissent pour parler, pour lire ou autre. Mais il n'y a plus ce côté spontané qu'il y avait au 19e siècle.
Bon, est-ce que tu aimes vraiment aller dans un café aujourd'hui ?
Non. Enfin, je préfère rester chez moi. Parce que ce que je vais faire dans un café, pour moi, je peux le faire aussi chez moi. Donc j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas la chose à laquelle je vais penser en priorité.
Bon, tu ne te verrais pas allant tous les soirs prendre un pot pour retrouver des gens, pour discuter ?
Non, pas du tout.
Je te remercie, Anna. Au revoir.
Au revoir.
Il est temps de nous quitter. Et je vous laisse avec Charles Trenet, chantant le grand café. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.
Vous connaissez les actualités d'avant-guerre et les premiers films de Charlot. Leur décor pourrait être celui du Grand Café, de ce café de province où les joueurs de manille fument et crachent dans une atmosphère d'aquarium et de plantes vertes. Voici la chanson que le Grand Café m'a inspirée. Au Grand Café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé devant la grande table, vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au Grand Café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur. Bien installé devant la grande table,
On écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris Soir. Et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés. Tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café. Par terre on avait mis de la cire de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit. Bien installés devant la grande table, vous invitiez des ducs, des connétables. Quand il fallut payer soudain l'addition, vous avez déclaré, moi j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisqua tous vos effets, vous étiez prêts au grand café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant. Vous essuyez toujours la grande table, c'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manieurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au grand café, au grand café.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier. Sur Radio Boomerang 89.7 FM.